Aujourd'hui, encore, et jusqu'à quand? Des crimes de guerre épouvantables sont commis par un gouvernement d'extrême droite qui prétend représenter les juifs du monde entier. C'est terriblement douloureux. Aucun enfant ne mérite d'être tué. Aucune famille ne mérite d'être chassée de sa maison. Aucune population ne mérite d'être affamée et jetée sur les routes de l'exode. Tous méritent de vivre en égaux entre la mer et le Jourdain. Cette guerre n'a pas commencé avec le massacre du 7 octobre 2023. Mais il est clair que depuis cette date, on peut parler de désastre absolu. La loi internationale est bafouée. Le crime de guerre est banalisé. Les morts civiles se comptent par dizaines de milliers et on ne voit pas la fin de l'engrenage mortifère qui se déroule en direct devant nos yeux. Amis auditeurs, amis auditrices, nous revoilà dans une nouvelle émission d'Enquête de cinéma. Aujourd'hui, nous vous présentons une rencontre avec Simone Bitton dans un débat public animé par Thierry Fabre et Nathania Cahen autour du film Les mille et un jours de Haj Edmond. Un film documentaire qui a été présenté le 31 mars 2025 au MUCEM à Marseille. C'est une lettre cinématographique adressée à l'écrivain Edmond Amran El-Melah, décédé en 2010. Les 1001 jours de Haj Edmond, produit en 2024, le titre renvoie au roman d'Edmond El-Melah le plus emblématique. « 1000 ans, un jour ». Dans ce roman, il rappelle la présence millénaire des Juifs au Maroc. Mais dans les années 50, il est souvent arrivé que tout un village ou une petite ville se vidait de tous ses citoyens juifs en un seul jour. Ils montaient calmement dans des camions envoyés par le mouvement sioniste qui les conduisait au port de Casablanca. Et il disparaissait comme s'il n'avait jamais vécu là. Edmond Amran El-Melah, qui a connu l'exil, mais qui a tenu à revenir mourir chez lui, a magistralement raconté l'histoire de ces Juifs arrachés à eux-mêmes. Ce départ soudain et massif était pour lui une blessure ouverte. Le film de Simone Bitton tisse les mots aux extraits de ses textes, aux témoignages, aux images des lieux, de sa vie et aux archives pour dessiner le souvenir d'un homme attaché, attachant et érudit, habité par deux tragédies parallèles, le départ des Juifs du Maroc et l'exode des Palestiniens arrachés à leur terre.
Ton premier roman, acheté chez Maspero, l'éditeur des gens du tiers-monde. C'était en 1980, j'étais étudiante à Paris. J'avais été attirée par le titre « Parcours immobile » et par la couverture, remplie de traits et de points noirs, comme une poterie berbère. Quarante ans ont passé depuis. Le livre est un peu abîmé, il a beaucoup déménagé, mais il ne m'a jamais quittée. Un livre de chez Maspero, c'est collector, c'est toute une époque. Ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé à toi. J'ai montré ton livre à un artisan, il m'a fait cet objet en souvenir. Tu me manques. Tu manques à ce monde, Hajj. Retourner au petit café sous les arbres, à Essaouira, là où tu tenais salon les après-midi d'été. Retrouver ton ami, Reda Benjelloun, et te relire ici, avec lui.
Aujourd'hui, il est de mode d'interpeller celui qui écrit. Qui est donc celui qui écrit ici? D'où écrit-il? À suivre ce jeu sans fin, on finit par s'écrire soi-même au lieu d'écrire à propos d'eux. Mais a-t-on jamais fait autrement? On porte en soi quelque chose, une parole, depuis hier, demain, de tout temps, de toute éternité. A-t-elle quelque chance de prendre corps dans un écrit, de se faire reconnaître et accueillir par autrui? Je suis juif marocain. Il n'y a aucun sens à mettre en question ce qui ne peut l'être.
Edmond, comment te raconter? Tu as eu tellement de vie. Tu étais juif, mais nous t'appelions Al-Hajj, comme si tu avais fait le pèlerinage de la Mecque.
Dès que je l'ai vu au feu rouge, pour moi, c'était une photo à faire immédiatement.
Ne pas rire trop fort. Ne pas parler à trop haute voix. Ne plus manger avec les doigts. Ne pas dire « ah » quand on a mal, mais le « aïe » français, poli et neutre. Ne plus dire « imma », mais « maman ». Autant d'interdits pour apprendre à ne pas vivre.
Un petit moment d'échange pour aller un petit peu plus loin. Donc, avec Nathania Cahen, on va donc prolonger ce magnifique film de Simone Biton avec donc Mohamed Tozzi, qui vous avez vu à l'écran. Moi, j'ai une première question qui est cinématographique. Parce que je sais qu'en en discutant, vous avez dit que ce film, dans sa forme, avait été inspiré par Chris Marker et par sa Tombeau d'Alexandre, cette magnifique lettre à Medvedkin, ce cinéaste incroyable. Russe, soviétique. Et donc, du point de vue d'abord de la forme, avant qu'on parle du fond et de ces liens marocains, juifs, vidéo-marocains et de toute la résonance contemporaine que peut avoir le film. Je passerai la parole à Nathania et à Mohamed Tozzi. Mais bon, déjà sur la forme cinématographique que vous avez choisie.
C'est vrai que j'ai revu Le Tombeau d'Alexandre. Je l'ai vu et revu. C'est un film déjà que j'aimais beaucoup. Mais je ne pense pas, dans la forme, ce n'est pas vraiment la forme qui m'a inspirée, c'est plutôt l'esprit.
L'élan.
C'est de faire un tombeau cinématographique à quelqu'un qui, comme Edmond, dans le début du Tombeau d'Alexandre, Marker dit... il était un vrai communiste entouré de gens qui faisaient semblant de l'être. Et ça m'a beaucoup marqué. Je pense qu'il y avait en Edmond une pureté une intransigeance aussi, qui parfois pouvait faire chier un peu, mais qui venait de sa très grande pureté, de son, du fait qu'il a, il a choisi son camp et qu'il a toujours tenu ce cap-là. Il a choisi son pays, il a choisi son, son peuple, et il a choisi aussi la pureté dans, dans l'art. Voilà, c'est plutôt ça voilà, sinon la, je suis beaucoup trop modeste pour me comparer à Chris Marker, mais je pense que la, la motivation était la même, quoi. Edmond, pour moi, il est vraiment tellement représentatif du, de ce juif arabe moderne, comme il y en avait des centaines, des milliers peut-être, dont le monde arabe s'est vidé. Le monde arabe s'est vidé de tous ces juifs, mais au passage, il s'est vidé de toute cette modernité que des gens comme Edmond avaient à lui offrir. Voilà. Je ne sais pas si Mohamed pense comme moi. Tu vois quelque chose ?
Très peu.
Quoi ?
Ben c'est... L'intérieur est encombré de déchets divers.
Et bientôt, dans cette grande pièce transformée en synagogue, les têtes se couvrirent de talit et de soie blanche rayée de bleu. Ardente, fervente, tissée dans le silence, la prière montait. Implorer le pardon pour les crimes commis, le kaddish pour l'enfant mort.
Ce qui est touché le plus, Edmond, c'est plus que la Palestine, c'est le Maroc. Il ne pardonne pas à Israël d'avoir assassiné la personnalité juive marocaine dans son pays.
Sur cette photo d'identité, tu as 20 ans, Hajj. Et dans tes yeux, je lis que tu allais bientôt choisir ton camp.
Le fait qu'il soit parti du Maroc pour s'exiler volontairement en France, c'est un acte de résistance.
Je mets une image après l'autre, Hajj, pour retrouver le temps.
C'était presque comme si nous étions nés dans le même pays qui était le pays qu'on nous avait enlevé.
Mais c'est pas musulman. C'est un
musulman juif. هو داير راسو بحال مغربي نيشان.
Posez une question.
Ouais. Moi j'avais une question justement qui se rapporte directement au titre, parce que Hajj, justement, c'est un nom qui qualifie en général les musulmans qui ont accompli leur pèlerinage à la Mecque. C'est vous qui l'avez trouvé ? C'était un surnom qu'il avait déjà ?
Je pense que c'est, après avoir beaucoup enquêté là-dessus, je pense que c'est Dominique Eddé, la première, qui l'a appelée. Elle me l'a dit et répété, et elle y tient. Donc elle l'a appelé Hajj très tôt.
Donc il connaissait ce...
Ah oui, il adorait ça.
Il adorait qu'on l'appelle.
Il adorait ça. C'est-à-dire Hajj, oui, c'est le musulman qui est allé à la Mecque, mais par extension, et surtout dans les milieux populaires, toute personne un peu âgée, respectée, respectable, est appelée Hajj. Et quand, comme il était souvent entouré de gens plus jeunes que lui, quand Dominique s'est mis à l'appeler Hajj, tout le monde a suivi, ou pas tout le monde, mais enfin beaucoup, mais en fait il adorait ça. Donc on l'appelait Hajj aussi pour lui faire plaisir.
Mohamed, toi tu as assisté, vécu à cet appartement de Montparnasse, et donc cette socialité-là.
Mohamed a même vécu au 114.
J'ai habité au 114, donc en haut, donc au-dessus de lui, donc on se partageait un peu la cuisine. Non, il s'est approprié en fait le nom. Il aimait beaucoup plus le Hajj, mais surtout Amran.
Oui.
Parce que c'est avec justement le Aïn qui sortait. Donc.
Il aimait être appelé par son prénom arabe, oui.
Amran. Et donc je pense que ce qui est important et ce que Simone met en scène de façon très forte, c'est le fait qu'il était, comme ça a été dit, et il était un individu d'abord avec des choix d'individus modernes. Et donc, d'abord, il y a la séquence de l'homme politique, parce qu'il était, c'était un permanent du parti.
Un apparatchik, il le disait lui-même.
Il était un permanent du parti, donc il était payé par le parti. Donc, avec, et en même temps, et avec sa condition bourgeoise, d'un vrai bourgeois, qui est resté une condition. Et la prise en charge de façon extrêmement clairvoyante de ces paradoxes était donnée à voir des partis pris, comme ça a été dit, intransigeants, au point que ça devenait parfois très...
Oui. Cliquez dans son article, oui, qui est publié ce matin dans 22 semaines, parle de Hagedement l'irréductible.
Oui, il était intransigeant. Moi, je me rappelle, la première fois que je l'ai rencontré, en fait, c'était à Essaouira, à l'hôtel des îles. Et c'était un autre juif américain qui me l'avait présenté. Moi, je ne le connaissais pas au départ. Donc, c'était dans les années, au début des années 80. Et donc, c'était Daniel Schroeder qui avait écrit les Toujar Sultan, les commerçants du roi, donc, qui avait sa thèse et qui me l'avait présenté. Et donc, et de toute façon, il n'a jamais été dans la communauté. Donc, il était dans tout ce qui est charge de la police de la communauté qu'il détestait absolument. Donc, il ne consommait pas cachère, il ne voulait pas.
Oui.
Il n'était pas.
Oui, et en même temps, son judaïsme était pour lui extrêmement important. Voilà. Et dans son œuvre, c'est très important.
Donc, en 1956, c'est l'indépendance pour le Maroc. C'est l'époque, le début de l'époque et de la fuite des Juifs du Maroc. Alors, vous l'évoquez juste en filigrane dans le film, mais il y a Israël qui va inciter les Juifs du Maroc. On en a en France, mais il y a Israël qui va aussi les inciter à venir sur leur territoire. C'est ça qu'il leur reproche.
Oui, ce que Laila a dit, et je pense qu'elle a raison, c'est que la grande colère qu'Edmond éprouvait à l'égard d'Israël n'était pas seulement, elle était aussi bien sûr à cause du sort misérable infligé aux Palestiniens, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait dans sa colère le fait, comme elle le dit très bien, elle, la Palestinienne, elle a senti ça, que sa colère venait du fait que pour lui, le sionisme avait détruit l'identité juive arabe, avait vidé le monde arabe de ses juifs, avait fait partir les juifs de tout le monde arabe, même s'ils ne sont pas tous partis en Israël, mais c'était quand même très concomitant et très lié. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a jamais pardonné, et c'est à cause de ça qu'il n'a jamais mis les pieds en Israël, je crois. C'est pas seulement parce qu'il était tellement solidaire des Palestiniens. Mais moi, quand je l'ai connu, j'arrivais d'Israël, où j'ai vécu mon adolescence, et je suis arrivée pour faire des études en France et pour y rester, et il était très curieux. Il me posait beaucoup de questions. C'est-à-dire, lui, il n'y avait jamais mis les pieds, mais il voulait savoir. Il voulait savoir surtout ce qu'étaient devenus les Juifs qu'il avait vus partir, les Juifs marocains. Mais en général, il voulait savoir. Et je lui racontais des histoires et je lui amenais parfois d'autres amis à qui il faisait subir des interrogatoires. Mais vraiment, des interrogatoires. Il prenait des notes. Il prenait des notes tout le temps. Et moi, je me suis retrouvée à plusieurs reprises, surtout dans « Mille ans, un jour » et dans « Le retour d'un Boulhaki ». J'ai retrouvé des choses d'abord qu'il n'y a que moi qui les lui avais racontées. Ce n'était pas possible qu'il les ait entendues de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, c'est ce qui arrive quand on côtoie un écrivain, c'est qu'on se retrouve d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a des...
C'est comme
moi,
avec les journalistes.
C'est pas moi, mais moi je sais où je suis dans ces lignes.
Alors, Driss Xikès, dans l'article, met justement l'accent sur marocain juif plutôt que juif marocain. On va revenir.
Ce qu'il a écrit dans
les travaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans cette façon d'insister cette dimension-là et...
Non, c'est-à-dire que la marocanité, il a l'identité première pour lui. Donc la judéité arrive en second par rapport. Elle était d'ailleurs banalisée par rapport à ça. Et d'ailleurs, il avait, même par rapport à... Parce que la communauté juive, même si elle a été totalement réduite, elle est là.
Elle est encore là.
Elle oui. est encore là, oui. et avec des statues qui sont soit des statues que, pour lesquelles il avait, je ne dirais pas du mépris, mais il prenait ses distances par rapport à ces statues, à cette externalité. Enfin, internalité, externalité, ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. Il était soit dans la cour, et il avait un rapport qui était compliqué aux juifs de la cour, ou des gens qui vivaient leur judaïté, mais dans les restes, j'allais dire, du protectorat. C'est-à-dire que ce soit les quartiers ou qui vivaient en communauté à part.
Et en cela, d'ailleurs, moi, je me sens très semblable à lui. Je vais beaucoup au Maroc. Bon, je ne suis pas retourné y vivre, mais j'y vais beaucoup. Ce film est un film marocain, y compris dans son financement. J'y suis accueilli vraiment comme une sœur.
Une Marocaine.
C'est merveilleux. Mais moi, je tiens à être une citoyenne et pas une membre de la communauté juive. Et ça, c'est très rare. Et en cela, je pense que je suis comme Edmond. Voilà. J'en connais encore quelques-uns, mais nous sommes très peu nombreux. Voilà, très peu nombreux, comme Raymond Ben Haïm, par exemple.
Assidon, Raymond.
Ou Raymond, qui est un ami d'Edmond, qui, comme lui, alors il vit toujours à Paris, mais il n'a jamais, jamais demandé la nationalité française, alors que son épouse est française, qu'il aurait pu l'avoir très facilement. Voilà.
On sent cette
Edmond profonde... jamais n'aurait demandé une autre nationalité que la nationalité marocaine. Il aurait fallu vraiment qu'il ait le couteau sous la gorge pour faire ça.
Au retour d'un enterrement, on doit toujours partager un couscous. Kbira avait bien sûr respecté la coutume et l'avait préparé de ses mains. Après la première semaine de deuil, lorsque ton appartement a été vidé, elle a hérité de ta cuisinière à gaz. Elle l'a installée chez elle et elle s'en sert toujours.
دابا انتيا ولا طيابك احسن من ديالي
Je n'étais pas à tes obsèques, Hajj. Mais avec 13 ans de retard, j'ai eu droit à ma part de ton couscous d'adieu. Elle m'a fait celui que tu préférais, à la graine d'orge et aux 7 légumes. Une œuvre d'art, assurément.
Dans le film, on sent justement cette profondeur historique. Pensez à l'historien Haïm Zafrani, qui a écrit « 1000 ans de vie juive au Maroc » et qui citait une très belle phrase d'Aragon, justement, qui était « Ce qui a été sera, pourvu qu'on s'en souvienne ». Et il me semble qu'il y a dans ce film, justement, pour avoir une résonance contemporaine, une transmission, un écho. C'est pas quelque chose de révolu, même si l'immense majorité des Marocains juifs ou des juifs marocains ne sont plus là. Mais là aussi, les effets diasporiques, les relations ne cessent pas d'exister. Et moi, je trouve qu'il y a, je qualifierais presque de personnage principal dans le film, El Kebira. Je trouve qu'elle est extraordinaire, enfin, dans la façon dont elle et dont elle dit un fragment. C'est un juif musulman. J'ai trouvé que ça c'était extrêmement savoureux et que beaucoup se jouaient autour de la cuisine. Donc l'un et l'autre, comment vous voyez ça, cette figure de Al-Kibira qui parle de lui, qui s'est tellement bien occupé de lui et qui l'a adopté finalement.
Tu as mangé sa cuisine.
On a fait la cuisine. Ouais. On s'est disputé autour de la cuisine. On s'est disputé avec.
Puisqu'il y a Mayalène qui est là, qui écrit sur la cuisine.
Avec la téfam, avec ma femme sur la cuisine. Lui, il disait, une maison sans mortier n'est pas une maison.
Donc une mortier. Mahrez, c'est-à-dire le pilon avec lequel on.
Mortier avec un mortier en bronze, en cuivre. Et donc il tenait à faire pour chaque repas à préparer les épices.
Aller moudre lui-même, à les écraser lui-même, quoi. Il n'aurait pas acheté la poudre. Et donc c'était un... Non, il était très dogmatique en cuisine, oui. Ça, c'est sûr. En cuisine, il était...
Oui, mais il avait trouvé quelqu'un qui faisait mieux la cuisine que lui.
Mais c'était bon. Voilà.
Quelques mots sur elle, justement, sur ce personnage qui s'est occupé de lui.
Non, Kmira était... Bon, il était à la fois... Enfin, de toute façon, ça se voit dans les images, dans les propos de Kmira. Il y a une relation extrêmement forte entre les deux, et surtout de respect mutuel. C'est ça qui... C'était pas sa bonne. C'était ça.
Voilà. Jamais, il n'aurait jamais prononcé ce mot en parlant de Kmira. Et c'est quand même très important, ça, au Maroc, parce que les relations sociales au Maroc sont... Les rapports de classe sont violents, très violents. Et c'était tellement beau de voir le couple Edmond Kmira.
Et puis invité à l'Aïd chez
elle. Ce sont les dernières années de sa vie. Mais elle l'a vraiment adopté, et lui, il l'a adopté. Et voilà, le fait qu'il soit l'invité d'honneur pour égorger le mouton, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est vrai, j'ai vu des photos de ça, où il est l'invité d'honneur, et voilà. Et toute la famille de Kmira est autour de lui, et tout le quartier, en fait, est autour de lui.
C'était presque comme si nous étions nés dans le même pays qui était le pays qu'on nous avait enlevé.
Mais c'est pas musulman. C'est
pas musulman, c'est juif. C'est comme le Maghreb, Nishe.
Donc, Adjedmond, il a disparu il y a maintenant 15 ans. Est-ce que votre film documentaire permet de le sortir de l'ombre, ou est-ce qu'il y a toujours un culte, ou est-ce qu'il y a toujours sa mémoire qui est entretenue?
Il est connu au Maroc. Le nom d'Edmond est vraiment connu au Maroc, connu et respecté.
On le voit d'ailleurs avec les informations.
Mais très peu de gens l'ont lu.
Son enterrement.
Très peu de gens l'ont lu. C'est pas seulement réservé à Edmond, ça. Il y a un problème d'édition, de distribution de la littérature au Maroc qui est général. Et puis sa littérature n'est pas facile. Mais enfin, il est connu. Il y a une fondation qui porte son nom. Il y a l'Académie. Oui, un artiste qui lui a fait un mausolée.
La fondation se trouve où?
Vous avez vu que quand il est mort, c'est passé à la télévision. Il y a beaucoup de respect pour sa personne en tant qu'intellectuel, mais aussi en tant que patriote. Alors, c'est vrai que ce respect, quand il est rendu de manière officielle, il met l'accent un peu sur ce qui arrange le pouvoir, et moins sur ce qui pourrait être plus dérangeant, mais c'est quand même formidable. Moi, je suis très reconnaissante aux autorités marocaines de lui avoir offert ces funérailles, qui étaient vraiment ce qu'il voulait. Il voulait être enterré à Essaouira, et le cimetière juif d'Essaouira, on n'y enterrait plus depuis plus de 15 ans.
On l'a réouvert.
C'est-à-dire on l'a réouvert pour lui. Et ça, c'est l'État. Enfin, oui, on a cette chance au Maroc, d'abord d'avoir encore une petite communauté avec ses institutions qui se gèrent elles-mêmes. C'est très résiduel. Il n'y a plus d'enfants qui naissent. Hein. La plupart des Juifs qui vivent encore au Maroc sont âgés. Leurs enfants ne sont plus là. Monsieur Azoulay lui-même, ses enfants, vous savez qui ils sont. Bon, voilà, Audrey Azoulay, elle n'est plus marocaine. Hein. Elle est française et directrice de l'UNESCO. Même lui, c'est-à-dire le symbole de la résilience juive au Maroc, même lui, ses enfants n'y sont plus. Donc,
c'est
la fin de quelque chose, mais du fait qu'ils sont encore là et que la porte est toujours ouverte, elle l'a toujours été. Et donc, il y a toujours un va-et-vient. Il n'y a pas de retour collectif, mais il y a Il y a toujours des juifs qui viennent au Maroc tout le temps. Alors, au début, c'est pour voir la tombe du grand-père, mais il y en a beaucoup qui achètent des maisons, il y en a qui ouvrent des commerces, il y en a qui font du business avec Israël, et pas forcément des Israéliens, mais aussi des juifs canadiens de partout. Il y a une mode parmi la bourgeoisie juive américaine maintenant qui est de venir faire des grands mariages fastueux dans les palaces de Marrakech. Ils viennent se marier au Maroc. Voilà.
Quel est l'héritage ou le legs, la transmission d'Edmond Amran El Maner?
D'abord, il y a tout son travail, parce qu'il y a un travail qui est tout ce qui apparaît dans ses livres. Il y a aussi ses recherches sur le judaïsme, sur la Kabbale. Il a fait beaucoup de... Donc il s'intéressait à la Kabbale, s'intéressait au judaïsme. Donc,
et au soufisme. Il s'intéressait beaucoup au mysticisme.
Mysticisme partagé.
Puis il y a peut-être aussi qu'on voit bien dans le film toute la dimension du dialogue avec les artistes contemporains.
Le deuxième aspect, c'est d'abord il a écrit, il a donné à voir de la peinture marginale, pas la peinture institutionnelle. Donc un type comme le Gharib, qui est dans le film, qui est ce peintre d'Azila. Donc, qui est lui-même une sorte de mystique qui peint, mais qui ne vend pas.
Qui ne signe pas et qui ne vend pas.
Et qui offre donc ses peintures. Quand il aime quelqu'un, il lui offre sa peinture. Donc, c'est... Et puis, il y a des peintres de l'establishment qu'il connaissait bien, qu'il connaissait même très bien. Il a écrit sur... il a écrit sur mais ceux qu'il a mis en valeur, ce sont les peintres des marges. Donc, qui étaient un peu pas très orthodoxes dans leur peinture.
Milan, un jour, 1986. Kaddish, la prière pour l'enfant mort. Absurde, lui qui ne savait pas prier, quelques mots vite oubliés. Lui, il n'avait jamais mis les pieds dans une synagogue. Si quand même, peut-être 3 ou 4 fois quand il était adolescent, le jour du Kippour, pour saluer son père au moment où se fait entendre le shofar, l'instant d'émotion qui marque la fin du jeûne.
Nessim tenait à la main le journal qu'il venait d'acheter. L'enfant le regardait, l'enfant sur un lit d'hôpital, couvert de pansements, les deux bras mutilés par l'explosion d'une bombe au phosphore. Là, sur toute la largeur de la première page, le regard de l'enfant brûlé, parmi les magazines, les illustrés de couleurs criardes, les visages des grands de ce monde, les scènes pornographiques hurlantes de grossièreté, en arabe, en français, bêtises et vulgarités, des choses, des gens.
Est-ce qu'on demande au public s'il y a une question ou deux, ou une réflexion?
C'était quand même quelqu'un de très, très érudit, Edmond. Voilà,
Natalia,
très cultivé, très érudit, qui vivait dans la culture. Voilà. Il vivait dans l'écrit.
On sent d'ailleurs que le fait qu'il n'est jamais isolé. Je veux dire qu'il y a toujours quelqu'un qui passe, et ça, on le sent très, très bien dans le film. Et le fait qu'il soit retourné au Maroc, il a échappé à l'isolement d'une vie à Paris. Oui.
Merci beaucoup, Simone, pour ce film. Et je voulais juste que tu nous parles plus de comment tu as monté le film, comment tu as décidé que c'était une lettre, comment tu as choisi les textes, qui allait lire quoi, comment filmer les livres, la construction du montage, voilà.
Et alors, j'ai la monteuse derrière moi. Et Caroline, qui est ici, a assisté, plus qu'assisté, à cet accouchement, puisqu'elle a été les mains qui ont sorti le bébé. Elle est où, Caroline? Voilà. Voilà. Elle va vous en dire quelques mots. Elle me voyait arriver tous les matins.
À Marseille, donc.
Je ne sais pas, moi, je ne me souviens plus, mais toi, tu te souviens dans...
Moi, je me souviens... Enfin, ce qui compte pour moi dans le montage de ce film, c'est que c'était une continuité de la pensée d'Edmond. C'est-à-dire que je me rappelle que Simone t'est arrivée en me disant « Est-ce qu'on peut prendre les rushs dans le désordre
plutôt que revoir tout chronologiquement par le tournage, est-ce que ça te dérangeait? Moi, ça ne me dérangeait pas du tout. J'étais même très contente d'entrer dans le film par des fils tout le temps. On tirait un fil, on allait rencontrer pour moi une autre personne. Et c'était ainsi de suite, une pensée qui se faisait par association plutôt que par idée préconçue à l'avance. Donc il y avait, même si Simone avait beaucoup écrit le film avant de venir au montage, il y avait quand même une écriture de montage et des surprises tout le temps de trouver les raccords.
Vous avez interviewé 17, enfin il y a 17 témoins, oui, à l'écran, mais il y en a, oui, plus.
J'en ai interviewé un peu plus qui, malheureusement, c'était trop, quoi. J'ai eu les yeux, ça m'arrive souvent, plus gros que le ventre. Et puis surtout, tout le monde voulait. C'est-à-dire, tous les gens à qui je m'adressais parfois juste pour demander un renseignement sur Edmond dans l'enquête voulaient être dans le film parce que tout le monde l'aime. J'ai filmé un peu plus de personnes, par exemple l'épouse de Mohamed a été interviewée, elle n'est pas dans le film et c'est un regret. Il y en a quelques autres comme ça, et puis il y a beaucoup de gens qui voulaient être dans le film que je n'ai pas même filmé parce que je savais que je ne pourrais pas. C'est beaucoup beaucoup de personnages et ça a été très difficile à tisser au montage, parce que c'est un peu un Rashomon, c'est un film où tout le monde raconte la même histoire, en gros, voilà. Peut-être pas tout à fait les mêmes époques, mais il y a beaucoup de gens qui racontent la même époque. Par exemple, le 114, il y a beaucoup de gens qui racontaient le 114. Donc, c'est choisir chez chacun, parfois la petite anecdote ou le regard ou le mot qui, je ne sais pas, enfin c'est des choix tout le temps. Le choix le plus, la lettre, non, j'avais décidé avant d'entrer en montage que ça serait une lettre. Évidemment, je ne l'avais pas encore écrite, je l'écrivais en même temps que nous montions les séquences, et écrite et réécrite et écrite et réécrite, ça, tout le temps. Par contre, une décision qui a été très difficile à prendre, peut-être la plus difficile, et je crois avoir pris la bonne décision, c'était déjà pendant le montage, pendant le tournage et complètement dès le début du montage, c'était dans le projet, je me laissais la possibilité de peut-être embaucher un comédien, un très grand comédien. J'avais une idée en tête, je voulais travailler avec Simon Abkarian, parce que c'est des textes, donc je voulais une belle voix qui lise les textes d'Edmond. Et puis, mais j'avais en même temps envie que ce soit ses amis qui, s'ils voulaient bien, lisent ces textes. Et c'était difficile, tu en sais quelque chose, parce que ce ne sont pas des professionnels, les textes sont difficiles. Ils sont tous parfaitement francophones, mais quand même, ils ont un accent. Parfois, ils trébuchent sur un mot. Et je me disais, mais est-ce que je peux faire ça? Enfin, je veux dire... Et puis, bon, c'était tellement désarmant, surtout avec Mohamed, avec Yamou aussi. C'est tellement beau que, bon, l'idée du comédien, elle est passée à la trappe et voilà, quoi. Mais ça aussi, c'est difficile à monter quand vous avez des gens que vous avez fait souffrir comme ça, faire 10 prises d'un paragraphe, parce que c'est très difficile à dire. Les textes d'Edmond, ils sont vraiment ils sont durs. C'est effectivement des phrases où parfois le complément arrive très
30,
loin
30 pages
dans
plus
la
loin
phrase.
Monsieur qui a demandé la parole, je crois.
Oui, pardon. D'une part, une remarque et deuxièmement, une question. La remarque, c'est qu'il y a 50 ans, au Maroc, dans les revues culturelles, on parlait déjà largement de Edmond El-Malé. Dans la Malif, il y avait de multiples allusions ou articles qui le concernaient. Le deuxième point, la question, est-ce qu'il y a eu une relation, un rapport entre Monsieur El-Malé et Abraham Serfati?
Très, à ce que je sache,
Oui, mais très peu. C'est-à-dire, ils n'étaient pas amis, sans être pour autant opposés, mais ils ont quand même. Il y a quelque chose un peu de parallèle dans leur parcours, puisque les deux ont été au Parti communiste marocain, mais Edmond, lui, a quitté le parti. Il n'a pas fait scission pour aller créer autre chose de plus radical, de plus à gauche. Il est parti, tout simplement. Et à partir du moment où il est parti, il a complètement cessé de faire de la politique, voilà, de militer, d'être encarté dans quoi que ce soit. Donc ce sont des personnages quand même très différents, très, très différents, qui n'avaient peut-être pas grand-chose à se dire au bout d'un certain temps, parce qu'ils ont pris des chemins très différents. Qu'en penses-tu ?
Il y a une question. Alain Ayou, qui a un petit lien avec le Maroc.
Alors, je voudrais dire à Simone l'émotion que m'a provoqué ce film. D'abord par mes origines, mais je ne suis pas de la même génération qu'Edmond El-Malé, bien entendu. Mais j'appartiens à cette histoire juive marocaine jusqu'au tréfonds, puisque des deux côtés, mais les familles juives qui m'ont précédé, dont je suis originaire, mes grands-parents, par exemple, ne parlaient pas français. Mes grands-parents ne parlaient pas français. J'appartiens à la génération qui a un prénom, je ne sais pas comment le qualifier d'ailleurs, voilà.
Français, chrétien ?
Même pas, je ne sais même pas. Mais par contre, mon deuxième prénom, j'appartiens à la génération où le prénom hébreu passait en second. Voilà, passait en second. Et voilà, donc je m'appelle Alain, mais je m'appelle aussi Meyer. Voilà. Et c'est une histoire que j'ai vécue totalement, puisque je n'ai quitté le Maroc qu'à l'âge de 17 ans, donc j'ai une longue histoire. Et puis je connaissais toute cette histoire intellectuelle, mais bon, voilà, donc c'est quelque chose qui m'a... Je remercie Simone, j'espère que ce film va... Est-ce qu'il va passer à la télé, d'ailleurs ? Je ne sais pas.
Oui, alors il est destiné à la télévision marocaine, bien sûr, mais aussi à TV5, et surtout à la plateforme que... une plateforme débutante que peu de gens connaissent, mais qui, j'espère, va prendre son essor, qui est une plateforme gratuite, qui est la plateforme de TV5 Monde Plus.
D'accord.
C'est-à-dire qui arrose tous les territoires francophones, c'est-à-dire que, et c'est gratuit, c'est-à-dire que ce film sera, dans quelques mois, mis sur cette plateforme, traduit, sous-titré en 6 langues, et qu'il sera disponible au Canada, en Belgique, au Luxembourg, dans toute l'Afrique.
Et puis il y a le relais de 22 mètres.
Pardon Thierry, la seule remarque, la seule apport que je voudrais avoir, c'est le débat que vous avez eu au début sur le sionisme qui a vidé les pays arabes de leur population juive. Le Maroc est un peu particulier dans ce domaine-là, parce que la bourgeoisie juive marocaine, elle n'est jamais allée en Israël, jamais. Elle est allée en France, en Espagne, au Canada, aux États-Unis, mais elle est... Par contre, ce qui s'est passé, parce que je l'ai vécu de l'intérieur, par l'intermédiaire de mon père, qui était un dirigeant de ce qu'on appelait la communauté juive marocaine, c'est que quand l'agence juive pour Israël fait une pression terrible sur la communauté juive marocaine pour qu'elle envoie des populations juives, en fait la communauté juive marocaine, elle résiste terriblement, et elle résout le problème comment ? Elle envoie les plus pauvres, ceux à qui on ne demande pas leur avis, et on a comme ça des nuits entières où l'aéroport de Casablanca en fait fait décoller des avions les uns après les autres avec des populations juives qui venaient du sud du Maroc, les fameux juifs berbères des villages juifs par exemple de la région d'Ouarzazate, etc.
Ouais. Et, Alain, et ces gens-là on pourrait passer c'est un sujet qui mérite,
parce que c'est ce qui explique voilà. Oui, mais c'est ce qui explique,
non, mais
le
on
fait
peut pas simplifier l'histoire
mais c'est ce qui explique voilà. Le fait que cette
population, juive
ou marocaine en Israël est devenue une population très discriminée.
Ouais.
Et que c'est devenu une population très marginalisée.
C'est une autre histoire qu'Edmond Elmaleh.
Non, ce n'est pas une autre histoire, ça en fait partie. Et il a beaucoup écrit là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas, en quelques phrases, après un film, la résumer. Bien sûr que chaque pays arabe a ses spécificités, chaque région au Maroc, dans chaque région, dans chaque décennie, l'immigration a eu une autre forme. Mais Edmond a effectivement beaucoup écrit sur ces villages qui se vidaient en une nuit, où le village était plein de juifs et le matin il n'y en avait plus aucun. Voilà. Il a beaucoup écrit là-dessus et ce sont des scènes très déchirantes dans son œuvre.
Oui. Simone, moi, je ne suis pas juif, je ne suis pas marocain.
Oui, Julien.
C'est un grand film.
Merci beaucoup.
C'est un grand film qui est aussi un grand film pour ceux qui ne sont ni juifs ni marocains. Il y a deux raisons essentielles à ça. La première, c'est qu'il parle aussi de littérature. Et que dans ce système aujourd'hui, dans cette époque-là, parler littérature, c'est très compliqué. Et là, tu as ouvert un pan énorme sur ce que c'est que la littérature pour des gens qui sont célébrés, mais qui néanmoins ont des difficultés énormes à exister de manière littéraire. La deuxième, et tu le sais, pour moi c'est vital, c'est un film politique. C'est un film politique. En ce moment, on a besoin de films politiques. Et pour ça, je te remercie du fond du cœur.
Merci. Ce sont deux beaux compliments. Je pense aussi que c'est un film politique. J'accepte tout à fait cette définition. Il ne parle pas forcément de politique, mais c'est un film politique, surtout qui vient à un moment où je pense que des voix telles que celles d'Edmond, et des voix juives, alors pour le coup, telles que celles d'Edmond, sont extrêmement précieuses. Et parce que pour moi, Edmond, c'est un vrai juif. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui mettait l'écriture, la loi, au-dessus de tout. C'est ça pour moi le judaïsme. C'est le judaïsme dont j'ai hérité. C'est les 10 commandements. Voilà. Et aujourd'hui, un vrai juif, c'est un juif qui rend honneur à ça. Et ce ne sont pas ceux qui prétendent parler au nom des juifs et qui sont en train de tuer le judaïsme en faisant une machine de mort et d'oppression. Voilà. Et donc une voix telle que celle d'Edmond, c'est très important. Et c'est très politique, oui. C'est très politique de faire aujourd'hui un film sur quelqu'un comme Edmond Amran Elmaleh, qui depuis 25 ans, il y a 25 ans, disait déjà qu'aucun juif digne de ce nom ne peut accepter ce qui est fait au nom du judaïsme aujourd'hui. Voilà.
Il y a une dimension très politique, il y a une dimension aussi humaine extrêmement forte qui traverse tout le film, qui est la tendresse. Et qui est une tendresse entêtée, résolue, qui, je trouve, irrigue tout le film et qui apparaît.
Il était très tendre. C'est vrai qu'il était intransigeant et qu'il était chiant et qu'on ne pouvait pas lui répondre et tout ça. Mais une fois qu'il t'acceptait, une fois que tu mangeais dans son plat, c'était une tendresse infinie, Edmond Elmaleh.
Ah, c'est aussi l'expression...
Et Marie-Cécile aussi.
Enfin, les deux, parce qu'on a beaucoup discuté, il y a eu de grosses discussions sur l'amitié. Et souvent, c'était Marie-Cécile qui me faisait lire à un certain moment l'éthique de Nicomaque, le chapitre d'Aristote sur l'amitié. Et donc c'était ça qui était... Et il vivait, ce rapport d'amitié bienveillante, mais en même temps exigeante. Il y avait une certaine exigence et donc il pouvait aussi te
bousculer
et te te larguer.
Il te mettait à l'épreuve.
À l'épreuve, ouais. Tout le temps. Et là, on a vu un peu ce que disait Yamou quand il a été voir sa peinture, qu'il n'a pas aimé sa peinture de départ. Et il n'a pas. Et une fois que tu as adopté, c'était assez... On a écrit des papiers ensemble, ce n'était pas facile.
Je m'imagine.
On a écrit des papiers ensemble. Et comme il s'intéressait beaucoup à la religion, il adorait un personnage sur lequel on a écrit, d'ailleurs, les deux. C'était un ouléma de Tanger qui s'appelle Sidi Abdallah Gnoun, qui était un ouléma comme lui, qui était éduqué chez lui. Donc il n'a pas, parce que Edmond n'a pas été à l'école comme primaire, donc il avait un...
Il était trop asthmatique, donc on faisait venir des gens pour l'instruire à la maison.
Et il était fasciné par Gnoun, parce que Gnoun avait écrit dans les années 30, lui, Gnoun a vécu jusqu'aux années 80, mais il avait écrit dans les années 30 un livre qui s'appelle en arabe on appelle Nubour al-Maghribi, l'érudition marocaine. Qui était un ouvrage interdit par le protectorat à l'époque et qui rappelait aux orientaux, c'est-à-dire aux littéraires, aux lettrés orientaux, c'est-à-dire Tahsin, donc avec qui il correspondait, pour leur dire que chez les berbères, arabes et les berbères, il y avait une maîtrise de la langue arabe supérieure aux orientaux. Et ça fascinait Edmond. Il adorait cette... Et on était... Et donc, moi, j'étais le voir, cet individu à Tanger. Et après, Edmond a voulu écrire un papier sur... Donc, c'était... Donc, le côté... Quand on parle du côté politique, parce que Simone a fait un livre, un film qui est politique, et parce que aussi la littérature d'Edmond était très politique.
Ouais.
Tous les récits, parce que c'était des récits éminemment politique, avec un rapport à la question politique qui était quotidien.
C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il y ait dans le film quelqu'un comme Anis Balafrège, qui est un ancien détenu politique, parce que j'entendais parfois dire « Oui, mais Edmond, quand il était à Paris, pendant que les gens croupissaient dans les prisons, pendant les années de plomb, il ne signait pas les pétitions, il ne venait pas aux meetings, etc. » Et c'était important pour moi de voir que quelqu'un comme Anis, non seulement ne lui en voulait pas de ça, mais même comprenait tout à fait que le rôle d'Edmond était ailleurs. Et que par contre, il a écrit... des choses que personne n'osait dire, que personne n'osait écrire à l'époque. Je pense que s'il les avait écrits en arabe, il aurait été interdit. Mais bon, ils ont même pas compris de quoi il parlait à l'époque. Mais la scène du père Balafrège qui vient rendre visite à son fils en prison, c'est quelque chose qui... Enfin, Anis a bien compris que c'était plus important qu'ajouter un nom sur une pétition. Et c'est pour ça que c'était important pour moi que ça soit que cette page soit dans le film.
C'est une forme de résistance par la création.
Ah ben c'est une résistance, oui. Edmond était un résistant. Moi aussi, je crois que je suis une résistante. Il faut résister, je veux dire, et de plus en plus.
Je voulais intervenir là-dessus. Ouais. Pardon, mais je voulais intervenir justement là-dessus parce que je trouve que c'est un film effectivement de résistance. C'est un film à la fois poétique et politique et qui est tellement essentiel aujourd'hui dans ce monde où on est complètement sidéré, dramatisé, voilà, et tout est à l'envers. Et là, c'est une bouée de sauvetage, je trouve, ce film aussi. C'est une bouée d'espoir, c'est un... voilà, merci beaucoup pour ce film et je trouve qu'il est extrêmement important et essentiel, quoi. Merci beaucoup.
Merci, merci.
Son grand-père savait déjà. On disait dans la famille qu'il avait le don des rêves prémonitoires. Il avait vu cette nuit même des fils d'Israël, ivres de haine, égorger femmes et enfants. Il s'était réveillé dans l'horreur de ce cauchemar, accablé de douleur et d'angoisse. Il se réveillait très tôt et sans prendre un verre de thé, il l'envoyait chercher le grand rabbin, les sages de la communauté, ses amis, ses proches. Et bientôt, dans cette grande pièce transformée en synagogue, les têtes se couvrirent de talits et de soie blanche rayée de bleu. ardente, fervente, tisser dans le silence la prière montée, implorer le pardon pour les crimes commis, le kaddish pour l'enfant mort.
Kaddish, kaddish, la prière pour l'enfant mort. Nessim ne savait pas prier, et ce n'est pas cela qui importait le plus. Il regardait l'enfant, il le cherchait du regard. L'enfant, cette lumière naissante, et l'affreuse mutilation des deux bras pris dans d'énormes pansements. Il se répétait ce mot de Kaddish comme une lente et solennelle méditation parce qu'il éprouvait un besoin de silence, de respect et de ferveur dans cet amour qui ne cessait de grandir en lui pour cet enfant. Un mot hébreu pour l'enfant arabe, la douleur se nouait à elle-même.
Bien, ce sera le mot de conclusion. Maintenant, voilà, voyez les films de Simone Bitton et n'hésitez pas à surfer sur 22 mètres.
Merci.
Let me tell you about it.